Et donc, la parole est maintenant au professeur Panaino de l'Université de Bologne, qui va nous parler d'un réduit presque, enfin, l'importance historique de la vallée du Yaknob, c'est ça ?
Oui.
Au Moyen-Âge. Voilà.
Oui, simple.
Bon, mesdames et messieurs, il n'est pas étonnant que la vallée du Yaknob ait attiré l'intérêt des chercheurs en vertu de son unicité ethnique évidente, autant que de son extraordinaire diversité linguistique, voire miraculeuse pour certains aspects. En réalité, la survivance durable d'un dialecte latéral de Sogdienne, encore parlé aujourd'hui dans cette vallée isolée, bien que caché au cœur des montagnes du Zarafshan supérieur, dans les territoires de la République du Tadjikistan, représentait et représente en soi un sujet tout à fait remarquable, digne de la recherche scientifique et de plusieurs missions ethnolinguistiques. Il faut noter que la langue yagnobi n'est peu directement dérivés du Sogdienne médiéval, tel qu'il nous est parvenu à travers les manuscrits médiévaux. Mais elle continue une ligne distincte des transmissions linguistiques provenant d'un autre groupe des dialectes du Sogdienne ancien, où les effets de la célèbre la loi rythmique n'en eut aucun impact. C'est pour cette raison que la majorité des études s'est strictement concentrée sur des problèmes à caractère linguistique et dialectologique, ou parfois ethnologique, mais que les peuples yagnobi est en substance resté au dehors des recherches sur l'histoire ancienne et sur le Moyen-Âge de cette région. On avait donc reconnu la dignité de la langue, mais non celle d'un véritable passé historique. Seulement quelques histoires improbables concernant l'origine de ces peuples en étaient rapportées par les voyageurs. Par exemple, la descendance directe des Yaknobi par les soldats d'Alexandre le Grand qui se seraient installés dans cette vallée. Une pseudo-reconstruction identitaire qui reste purement légendaire, mais qui parfois réapparaît dans des guides touristiques ou des traités parascientifiques. Malheureusement, les chercheurs ont souligné l'importance des phénomènes linguistiques, surtout les relations étymologiques avec la lexicographie sogdienne, mais l'attention dirigée vers les signifiés historique de cette vallée dans l'histoire économique et politique de la Sogdienne ancienne et médiévale est inévitablement, comme l'on verra bientôt dans un district très proche à l'Oustrouchana, a été généralement très modeste. Aussi, peu d'importance fut accordée au patrimoine archéologique de cette vallée, à laquelle seulement des courtes missions de l'Académie des sciences du Tadjikistan, et après ça, sur la base des découvertes signalées par les savants tadjiks, en particulier par Messier Yakubov, ou plus récemment par Echonkulov, une série de missions italiennes emportait quelque attention. Cet oubli est étonnant, car en face d'une région où l'identité linguistique et culturelle coïncide avec celle de la tradition d'installation humaine d'origine sogdienne, un sentiment de dévaluation a dominé. Parmi ces paradoxes, nous pouvons mentionner par exemple l'absence d'attention systématique vers les références potentielles contenues dans les documents sogdiennes des monts Moug, que nous avons vus ici, et de la région du Zarafshan supérieur, pas seulement Madrushkat et Macha où Pavel Lurie travaille maintenant, mais aussi de la vallée même du Yaknob. Un petit dossier de toutes ces questions avec des données philologiques et des solutions interprétatives a déjà été donné dans le 12e volume de notre rapport sur les activités de survey archéologique et d'investigation ethnolinguistique italienne conduites dans les territoires de la vallée de la rivière Yaknob pendant les années 2007-2013. Lorsque nous avons abordé l'étude du dossier Yaknobi, nous avons traité la question à l'instar d'une constellation des problèmes, et pas uniquement comme un sujet de nature strictement linguistique. Première question, quelle est la relation entre la préservation d'un dialecte d'origine sogdienne et l'histoire de ses locuteurs? L'hypothèse traditionnelle selon laquelle les Yagnobi étaient les réchappés de Samarcande est inacceptable. Pour des raisons très simples. Si les Yagnobi étaient les sogdiennes de Samarcande, il faudrait alors s'attendre à voir un dialecte où la loi rythmique avait été respectée. La présence d'une traduction sogdienne ancienne mais différente, vraisemblablement montagnarde, confirme que nous avons affaire avec une communauté historique des montagnardes et non des citoyennes évacuées des centres urbains sogdiennes comme Samarcande, Penjiken, etc. En d'autres termes, il est fort possible que des sogdiennes des plaines se soient réfugiées dans les Yagnob, ne serait-ce que par un phénomène transitoire et non définitif. De plus, si nous observons avec attention la situation présentée dans les répertoires de Monmouth, il est clair qu'une aristocratie foncière des landlords possédait des intérêts économiques très importants dans les régions hautes de l'Oustrouchana, de Pargard, de Macha, Madrushkat et évidemment aussi dans la vallée du Yagnob. Cette situation démontre que les différences dialectologiques entre les patois des montagnes et l'argot des villes ne constituaient pas un problème dramatique de compréhension mutuelle, mais représentaient en tout cas une différence sociolinguistique importante. Alors, il faut abandonner une vision romantique et romanesque de l'histoire Yagnobi au Moyen-Âge, dans laquelle les Yagnobi sont présentés aujourd'hui encore plus pour des raisons politiques et idéologiques que pour une réflexion historique véritable, comme les derniers défenseurs de l'indépendance sogdienne et tarienne contre l'invasion arabe. Des nobles guerrières de Samarcande et d'autres villes capables de bloquer avec leur courage militaire l'avancée islamique dans l'endroit le plus éloigné du Yagnob. Notre investigation en situ, en suivant les travaux plus connus des collègues tadjiks, montre très clairement que la présence des nombreux tanga et pétroglyphes ici, voilà. Montre très clairement que la présence de nombreux tanga et pétroglyphes est très ancienne et que la vallée a été évidemment habitée dès l'Antiquité. J'imagine que du point de vue ethnique, les Yagnob jouaient un rôle économique sur lequel je reviendrai dans un instant, pendant l'histoire sogdienne, et que sa population pouvait être la même que nous retrouvons dans les districts de l'Oustrouchana. Il est raisonnable d'envisager que ces montagnards en sogdienne Garcha, Yagnobi, Galcha, Gacha, entretenaient des relations économiques et commercial avec les grands centres urbanisés, surtout Penjikent et plus loin Samarcande. Il n'y a aucune raison de postuler la présence des villages dans les montagnes du Tadjikistan comme un phénomène résultant de l'invasion arabe. Les montagnards étaient déjà peuplés pendant des centaines d'années et les villages alpines jouaient une fonction stratégique dans les systèmes économiques sogdiennes comme dans les systèmes de contrôle du territoire. Concernant les contrôles de la région, il serait suffisant de mentionner des sites fortifiés qui, comme dans la forteresse de Montmouth, qui permettait de contrôler les points les plus stratégiques du territoire. C'est le cas des fortifications de Sarvodé sur les monts Kouchisourk, de Khoum et Madam, ou encore des petites forteresses proches d'Aini, qui s'ajoutent à la série des sites archéologiques d'origine sogdienne éparpillés dans la vallée du Yagnob, et dont beaucoup de matériel de remblai a été réutilisé à l'époque islamique. Il s'agit d'une riche documentation partiellement connue et qui avait été identifiée déjà par Messier Yakubov pendant la survey des années 60 du siècle passé, mais sans être publiée dans une forme systématique. Or, la présence des structures sogdiennes, fortifiées ou semi-fortifiées, placées sur des routes d'accès à la vallée du Yagnob, avait été déjà reconnue par Malitschki, et par la suite, Juncker avait aussi relevé leur existence. La dislocation de toutes ces structures, surtout sur les points d'entrée et de sortie de la vallée, mais également dans les hautes cols des montagnes, avec des fonctions de contrôle sur les deux côtés de la vallée, démontre une attention évidente pour les territoires et confirme son utilité. Cela signifie que ces endroits des montagnes avaient leur importance. L'identification de certaines ruines appartenant à trois castellets proches du col des Fans, à proximité de Marghib, comme la découverte d'une fortification ultérieure très proche à Kshortob et déjà enregistrée par Malitschki, démontre l'intérêt stratégique de ces districts de sogdiennes. Je pense qu'il est utile, dans ces cadres spécifiques, de souligner que les lettres de Montmoug mentionnent des lieux qui nous pouvons encore identifier très aisément à quelques heures des routes des points d'accès à la vallée du Yagnob, et que cette topographie sogdienne est encore bien préservée aujourd'hui dans la région. Ces villages sont par exemple Iskadar, Tchikat et Krout. Toute une communication directe avec la forteresse de Moug et qui était sur la route qui arrive du col de Chakristan, ou encore comme à Krout sur les versants orientaux plus proches d'Aini. Selon la reconstruction proposée par Grenet et de la Vassière, c'est à partir du col de Chakristan que l'armée de Suleiman ibn Abi al-Sari était arrivée, en passant de Khojand en 4 jours de marche jusqu'au mont Moug. L'avant-garde arabe défilait sogdienne dans les environs du village de Koum, en seul farsac de la forteresse de Moug, où, lors de sa capture, Devastich fut crucifié. Ces remarques sont utiles pour montrer que cette région a joué un rôle historique d'une importance évidente dans les phases de la résistance sogdienne, grâce aussi à son système de fortifications et à son orographie complexe, qui pouvait rendre les contrôles du territoire très difficiles à une armée ennemi qui ne possédait pas des connaissances directes de cette région géographiquement si complexe. En particulier, les Arafchans supérieurs, avec la vallée du Yagnob, aussi comme toute la région de Madrushkat, constituaient des territoires très intéressants du point de vue de la production alimentaire, vraisemblablement autosuffisants, mais surtout pour les conditions optimales des pâtures que ces endroits offraient et offrent encore aux animaux pendant les périodes du printemps à l'été. Toutes ces vallées dessine un réseau complexe des petites routes de montagne qui, aujourd'hui, sont encore utilisées par des milliers d'animaux qui, à partir du mois de mai, gravissent les montagnes et changent leur pâturage en montant chaque mois vers des alpages meilleurs. Il faut se rappeler la présence très remarquable des troupeaux transhumants qui arrivent encore parfois de l'Ouzbékistan ou du Kazakhstan, et qui font paître, par exemple, dans la longue et grande vallée de Macha avec sa grande et belle rivière. Ces bétails, après quelques mois, remontent à travers les sentiers qui ménagent jusqu'à la vallée du Yagnob, dont l'altitude est très haute et pourtant le climat plus frais est agréable, et qui mettent sa nourriture à disposition des troupeaux, essayant d'éviter les chaleurs remontant des plaines. Pendant nos missions au Tadjikistan, nous avons observé cette vaste activité des transhumances et nous avons aussi eu l'opportunité de suivre certains troupeaux dans leur ascension de la vallée des Machas à partir, par exemple, des ruines de Madrushkat jusqu'au Yagnob, à travers les villages de Gunz, exactement par la route qui relia la vallée du Yagnob au Fergana, pour arriver à proximité du village maintenant abandonné de Kirionte, dans le Yagnob. Tous ces passages des hautes montagnes et dont l'altitude est fréquemment supérieure à 4000 mètres au-dessous du niveau de la mer présentent de nombreuses petites structures fortifiées dont la fonction militaire était vraisemblablement limitée, mais qui avaient, à mon avis, plus raisonnablement le but très simple d'abriter des fonctionnaires chargés de vérifier les droits de passage de chaque berger et de son troupeau. Cela signifie que si les troupeaux appartenaient à la noblesse ou aux familles des grands marchands des villes des plaines, ces mêmes familles possédaient des droits d'usage sur les pâturages des vallées des montagnes. Dans ce cadre, une petite vallée des hautes montagnes comme le Yagnob démontre son importance et son utilité. De plus, le cas de cette vallée nous offre la clé pour élaborer un modèle économique et social, habité par un nombre acceptable de montagnards, un nombre jamais supérieur à la capacité d'autosuffisance alimentaire de la vallée même, qui maintenait efficacement les terrains et les pâturages. Ces territoires produisaient un surplus alimentaire fondamental pour les grands troupeaux des seigneurs sogdiens des plaines. C'est dans cette dialectique, dialectique entre centre et périphérie que la survivance de l'élément ethnique Yagnobi jouait son rôle dans la montagne, dans le monde sogdienne. Pour ces raisons, il est inutile d'imaginer des motivations héroïques comme une résistance militaire infatigable contre les envahisseurs arabes pour justifier l'origine et la résistance de longue durée de la communauté Yagnobi. Il ne faut pas oublier que les mots latins pecunia, argent, mais évidemment à l'origine richesse en bétail, est un dérivé de pecus, bétail. Si les modèles, et aussi, il semble être l'étymologie du territoire de l'Ustrushana, si les modèles socio-économiques que je propose à quelques fondements, il devient alors évident que ces régions avaient des fonctions très pratiques dans le développement de la société sogdienne du point de vue de l'approvisionnement alimentaire et de la disponibilité des ressources, des richesses matérielles, très simple, mais en tout cas indispensable. On peut s'imaginer que ces villages des montagnes dans les Yagnob, comme dans les districts des environs, possédaient des structures bien organisées, limitées pas seulement aux montagnards résidents, mais mises à disposition des fonctionnaires en visite ou des propriétaires qui, en cas de difficulté, comme par exemple dans les phases les plus difficiles des combats contre l'élément arabe, pouvaient offrir un refuge plus sûr et mieux dissimulé. Une histoire aussi fondée sur une réalité économique plutôt que sur une version idéologique a posteriori de l'héroïsme sogdienne contre la domination arabe. Merci.